autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Antonio Fischetti.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Hugo Violas à la réalisation. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un univers méconnu, celui des algues. Elles ont parfois mauvaise réputation et pourtant, elles jouent un rôle écologique essentiel en servant de cachette et de nourriture pour toute une faune sous-marine. Il y en a des rouges, des vertes, des brunes, des microscopiques et des géantes. Elles forment de véritables paysages. On parle de forêts d'algues, de prairies d'algues ou de pelouses d'algues. Certaines sont des plantes, d'autres non, mais elles doivent toutes chercher le soleil et dans ce but, elles ont développé d'ingénieux stratagèmes. Elles ont aussi inspiré des artistes par leur charme mystérieux. Malheureusement, elles sont aujourd'hui menacées, elles aussi, par le réchauffement climatique. À quoi servent les algues? C'est notre question du jour. Embarquement pour une promenade sous-marine poétique et naturaliste. Nous sommes aujourd'hui avec Lynn Le Gall. Lynn Le Gall, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous êtes donc spécialiste des algues. Vous étudiez leur diversité. Vous analysez notamment aussi leur ADN. Vous nous en parlerez pour comprendre leur histoire évolutive. Et vous venez de publier un livre aux éditions Delachaux et Niestlé qui s'appelle « Algues, étonnant paysage ». Donc c'est un livre avec deux Denis Lamy, attaché honoraire au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et vous aviez vous-même déjà publié aussi d'autres livres, notamment sur les algues des côtes françaises, aux éditions Ouest France. Alors parlez-nous un petit peu de cette passion pour les algues qui vous anime. Vous êtes spécialiste depuis le début de votre carrière scientifique. C'est un domaine un petit peu original quand même, celui des algues.
J'étais à la fois passionnée par la botanique, de manière très générale, et par la mer. Donc le point de rencontre entre la botanique et la mer, il y avait les algues au carrefour de l'un et de l'autre.
La mer, la passion pour la mer a, disons, été antérieure à celle de la science, des algues. Depuis toute petite, vous vous intéressiez à la mer.
J'ai eu cette chance de grandir au bord de l'eau et c'est vraiment quelque chose qui m'a façonnée. Je pense que
à quel endroit?
Donc j'ai grandi en Normandie, à proximité de Deauville. Et donc j'ai beaucoup sillonné les plages et les côtes de Normandie et d'ailleurs.
Alors vous avez réalisé ce qu'on appelle un beau livre avec des illustrations très impressionnantes, des photos, des dessins, des reproductions anciennes. C'est un livre qui s'intéresse aussi à l'histoire de la découverte de ce monde méconnu, celui des algues.
Alors ce qui m'étonne toujours avec les algues, c'est le peu de connaissances que l'on a de manière générale sur ce sujet. Donc je me suis interrogée depuis quand étudie-t-on les algues? Et évidemment, on remonte souvent à l'Antiquité. Les algues ont été étudiées durant l'Antiquité, assez peu tout de même. Elles sont tombées dans un oubli quasi total au cours du Moyen-Âge. Et c'est vraiment à partir de la Renaissance qu'on s'est de nouveau intéressé à ce matériau un petit peu fascinant.
On y reviendra, mais d'abord une question de base. Qu'est-ce qu'une algue exactement? On pourrait croire qu'il s'agit d'une plante, tout simplement, qui vit dans l'eau, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça.
Effectivement, sous cette question simple, il se cache une grande diversité. Les algues, on en a des toutes petites, des algues microscopiques, on en a des très très grandes, on a parmi les plus grands végétaux, ce sont des algues.
Dans la plus petite algue, elle mesure combien?
Elle est minuscule, elle fait quelques microns.
Oui.
Avec un tout petit génome.
On ne la voit pas à l'œil nu, donc. Et la plus grande?
Alors la plus grande, on atteint plusieurs dizaines de mètres, 40 à 90 mètres pour les plus grandes, dans les grandes forêts d'algues qu'il y a sur la face ouest des États-Unis.
Et dans votre livre, on apprend qu'il y a des algues qui sont des plantes et des algues qui ne sont pas des plantes. C'est quoi la différence?
Alors, ce qu'on appelle les plantes aujourd'hui, c'est une lignée phylogénétique unique, c'est-à-dire qu'elles partagent tout un ancêtre commun. Et ça, c'est vrai pour les algues vertes et les algues rouges. Mais il se trouve qu'on a aussi les algues brunes, qui ont une autre origine, qui sont aussi différentes des plantes qu'elles ne le sont des animaux, qu'elles le sont
sont des espèces à part, totalement à part.
Ce sont des espèces à part. Aujourd'hui, dans la diversité du vivant, on a plus que 3 branches, et c'est donc une des autres branches de cette diversité du vivant.
Les algues ont souvent mauvaise réputation quand on se promène sur une plage remplie d'algues. En général, c'est pas très engageant pour la baignade. Alors, pourquoi cette mauvaise réputation des algues ?
Alors, je pense qu'il faut être plus nuancé. La perception des algues peut être très mauvaise, effectivement, quand c'est cet objet qui sèche sur le haut d'une plage. Les gens peuvent même avoir une attitude de trouver ça répugnant. Mais il y a aussi des gens qui sont passionnés par les algues en tant que produit cosmétique ou en tant qu'aliment merveilleux, extraordinaire, etc. Donc on a toujours des avis très contrastés. On a rarement un point de vue, une perception modérée.
Oui, et on aime ou on déteste.
Hein. C'est ça. Et c'est aussi mon objectif à moi, c'est de parler des algues de manière un petit peu plus rationnelle.
Justement, nous allons plonger dans cet univers mystérieux avec cet extrait de l'émission « C'est pas sorcier ».
Regarde, Johnny, comme c'est magnifique. Nous sommes à une dizaine de mètres de profondeur et nous plongeons dans une véritable forêt d'algues. Ce sont les plus grandes algues que l'on trouve sur la côte bretonne. Elles peuvent atteindre 4 ou 5 mètres de haut. Celles-ci appartiennent à la famille des laminaires. Et là, eh bien, nous entrons dans un champ d'immentalia. Vous avez vu, on dirait un peu des colonnes de spaghettis.
Lynn Le Gall, ça vous rappelle des souvenirs, cet extrait, puisque vous étudiez les algues, mais pas seulement derrière votre bureau, vous plongez également.
Oui, j'ai cette chance d'avoir appris à plonger pour aller étudier mon sujet d'étude. Donc, j'ai des milliers d'heures passées sous l'eau à aller...
C'est un travail de terrain. Enfin, de terrain sous-marin.
Je pense qu'il faut avoir cette capacité à percevoir le milieu sur lequel on travaille. Et pour moi, c'était essentiel de pouvoir aller observer ces paysages sous l'eau.
Ben, qu'est-ce qu'ils ont de merveilleux, puisque malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance de découvrir ces paysages sous-marins. D'ailleurs, vous parlez vraiment de paysages. Quand on plonge, quand on navigue comme ça au milieu d'un paysage d'algues, c'est quelque chose... qui n'a rien de commun avec les paysages terrestres. Et pourtant, vous employez les mêmes mots. Vous parlez de forêt, d'algues, de prairies, de pelouses. Quels sont les points communs et les différences ?
C'est une large question. Donc, les paysages sous-marins, on a une difficulté pour les voir puisque la surface de l'eau va faire un miroir qui va empêcher le regard humain d'y pénétrer à moins de s'immerger effectivement avec un scaphandre. Une fois qu'on est dedans et qu'on est immergé dedans, la promenade est aussi bucolique que la surface de la Terre. Et comme sur la surface de la Terre, il est difficile d'atteindre les sommets, il est aussi difficile pour nous d'aller étudier les algues en profondeur. Donc plus on va s'éloigner de ce zéro Descartes, plus on va être en difficulté.
Mais quand on se promène alors dans ces forêts d'algues qui peuvent être gigantesques, hein, plusieurs mètres de hauteur, c'est comme si on marchait dans une forêt avec des arbres. Sauf que ces algues, on imagine qu'elles bougent sans cesse. Ça doit être assez énigmatique.
Alors effectivement, c'est complètement mouvement, ça bouge dans tous les sens, mais ce qui est extraordinaire par rapport à une promenade en forêt, on est cloué au sol, c'est que quand on plonge, on peut se mettre sous la canopée, mais aussi on peut passer par-dessus. Donc on peut observer la forêt de par-dessus, on peut se coulisser à l'intérieur, et on peut même se cacher entre des roches. Donc on a mille façons de pouvoir observer ces paysages sous-marins.
Ça doit être assez magique, effectivement. Et quels sont alors les différents types d'algues dans votre livre ? Donc vous parlez de 3 groupes, hein, des algues avec des grandes feuilles, d'autres très petites. Alors elles peuvent être classées en différents groupes, ces algues ?
Alors, d'un point de vue de l'évolution, on va avoir 3 grands groupes qui sont les algues rouges et les algues vertes, on l'a dit, toutes deux appartenant aux plantes, et les algues brunes, qui sont les plus grandes, hein, celles qui vont atteindre ces dizaines de mètres, sont dans le groupe des algues brunes, et celles-ci appartiennent donc à une lignée qui n'a rien à voir.
Mais alors, il y a aussi des algues cailloux avec des parois imprégnées de calcaire. À quoi ça sert ?
C'est une des particularités des algues, c'est d'avoir hein, des parois extrêmement diversifiées. On les exploite d'ailleurs pour ça. Hein. Il y a des composés que l'on retrouve que dans les parois d'algues.
Par exemple
hein, par exemple, alors ça a des noms compliqués, il y a des carrageenanes, des alginates, des agas.
Hein, et ça sert à quoi?
Donc ces composés sont utilisés hein, comme compléments alimentaires, comme gélifiants le plus souvent ou épaississants. Et certaines ont la particularité d'accumuler dans leurs parois du calcaire et ça les rend dur comme de la pierre.
Mais toutes les algues ont pour point commun de rechercher la lumière, puisqu'elles ont besoin de lumière. Hein, donc ce qui veut dire qu'à une certaine profondeur, il n'y a plus d'algues, puisque la lumière ne pénètre pas assez profondément. Mais elles ont développé des stratagèmes pour chercher la lumière. Certaines ont déboué pour rester à la surface de l'eau, vous dites.
C'est une question de survie pour une algue. Hein. Elles ne pourront ne pousser qu'en présence de lumière. Donc effectivement, le flotteur va leur permettre d'aller s'étaler le plus surface, d'occuper un plus grand volume dans la colonne d'eau, et c'est ce qui va leur permettre de capter des nutriments et de présenter leurs feuilles comme un parasol. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'aller capter cette lumière du soleil.
Jusqu'à quelle profondeur maximale on peut trouver des algues?
Alors, les algues qui ont été enregistrées le plus profondément poussaient à 230 mètres. Et ça, c'est dans les Bahamas, hein, où l'eau est particulièrement claire. Hein, puisqu'en fait, toutes les particules qu'on va retrouver dans l'eau vont jouer le rôle de petits miroirs et refléter la lumière. Donc, plus il y a de particules, moins la lumière pénètre. Donc, il faut des eaux très claires pour que les algues puissent pousser très profond.
Autour de la question à quoi servent les algues avec Lynn Le Gall du Muséum National d'Histoire Naturelle. Partons en direction du monde sous-marin avec Félix Leclerc, les algues.
Plus fragile que la feuille à l'arbre, la vie. Plus lourde que montagne au large, la vie. Léger comme plume d'outarde si. Tu la lis à une autre vie, ta vie. On grandit comme l'arbre, on durcit comme un marbre, puis on se salit un peu, puis on se passe dans le feu, on s'accroche comme l'algue, on s'enfonce peu à peu, et au-dessus de la vague toujours le silence bleu. Mère taille de misère, plus un fil de mystère, quelques pardons du velours font un grand manteau d'amour. J'ai vu traîne royale piquée d'or et d'étoiles, manteau d'amour que le nom c'était des pleurs et du plomb. On est comme les âmes la nuit sur le gros dos de la vague, sans but, sans fin, sans bruit.
Autour de la question, nous parlons aujourd'hui des algues avec Lynn Le Gall, chercheuse au Muséum National d'Histoire Naturelle, pour son livre « Algues, étonnant paysage » chez Delachaux et Nestlé. Lynn Le Gall, petite question de sexualité, les algues, comment se reproduisent-elles? Puisque les plantes qu'on connaît sur Terre ont des fleurs, des graines, mais ça n'est pas le cas des algues.
Les algues sont pudiques, elles cachent leur sexe. Hein. Et oui. C'est pour ça que Linné les a positionnées dans un grand groupe, les cryptogames, il y a longtemps, 1756.
Cryptogames, ça veut dire on cache les organes génitaux.
Absolument.
Alors comment elles font? Alors elles peuvent les cacher, mais s'en servir quand même.
C'est enfoui. C'est...
Elles ont
là,
des graines.
C'est présent.
Elles n'ont pas de fleurs, donc.
Pas de fleurs, pas de graines. Néanmoins, on va avoir des spores qui vont pouvoir être disséminés. On va avoir des gamètes et on va avoir une fécondation.
Mais dans l'eau, ça se fait dans l'eau, en fait. Ces spores se répartissent. Et se disperse dans l'eau.
La fécondation a lieu dans l'eau, ouais, toujours, de manière très variée. Il y a plein de modalités.
Bon, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail. Mais a priori, les algues ne font pas de son et les plantes ne font pas de son. Et pourtant, Jean-Marc Lotel est un architecte sonore qui a enregistré un son très étonnant. Alors, le chant des herbiers de Posidonie, écoutons-le.
Vous écoutez RFI. Autour de la question.
Lynn Le Gall, c'est un son très mystérieux. Ces herbiers de Posidonie, qu'est-ce que c'est exactement?
Là, on est bien dans les plantes. Ce sont des plantes qui vivent dans la mer. Donc ça ressemble à des grandes herbes qui peuplent tout le fond de la Méditerranée, qui font des immenses herbiers. Mais on est bien dans des herbes marines.
Donc Jean-Marc Lotel a enregistré. Alors, ces sons, mais qu'on n'entend pas, il faut quand même préciser qu'il les a retravaillés donc pour les augmenter leur niveau sonore et puis transposer également leur fréquence. Donc il y a tout un travail sonore. Si on met l'oreille dans l'eau, on n'entend pas exactement ça. Mais quand même, il y a des vibrations dont on ignore a priori la cause, mais... il peut y avoir aussi certains phénomènes qui produisent des sons chez les algues.
Il y a des phénomènes physiques lors de la photosynthèse. Les algues vont capter le CO2 qui est dissous dans l'eau et ils vont émettre de l'oxygène, exactement comme les plantes à la surface de la Terre. Et en émettant de l'oxygène, elles émettent des petites bulles. Et ces bulles, en se détachant, émettent des sons. Donc c'est tout à fait possible qu'on soit en train de écouter la photosynthèse qui a lieu.
Écouter la photosynthèse, alors on rejoint la poésie hein, dans cette interaction entre la science et puis l'émotion. Ça, c'est quelque chose qui irrigue tout votre livre. Et d'ailleurs, justement, il y a tout un chapitre qui concerne les relations entre l'art et la science. Comment les algues ont inspiré les artistes?
Alors les algues, c'est difficile de les voir dans leur milieu. Donc souvent, les scientifiques ont eu recours à des artistes pour figurer les algues, pour pouvoir représenter. Puis les artistes aussi se sont emparés de ce matériau très original, un petit peu difficile à travailler, qui interpelle. Et notamment à l'époque de l'Art Nouveau, cette forme ondoyante convenait parfaitement au motif.
Oui, c'est-à-dire, vous écrivez, hein, au 19e siècle, les arts décoratifs cherchent de nouveaux modèles, puisque donc ils ont épuisé, à leurs yeux, hein, les formes anciennes, et ce monde sous-marin est une source d'inspiration avec ces objets mouvants, mystérieux. Et il y a aussi alors un banquier, on fait la connaissance d'un banquier, Auguste Balé, de elle, un banquier passionné d'algues qui a l'idée d'offrir à des artistes la possibilité de renouveler leur inspiration. C'est assez étonnant, ça, cette relation entre artistes, banquiers, scientifiques.
Alors, il faut se replacer dans ce contexte du 19e, hein, où l'étude des sciences naturelles, de manière très générale, était de bon augure dans la grande société, notamment dans la société bourgeoise. Donc on est vraiment dans cette démarche-là, où on a des botanistes amateurs de très haut niveau, mais amateurs toutefois, qui ont des professions par ailleurs, banquiers, on en a eu d'autres qui étaient des industriels fameux, et ils ont beaucoup fait pour faire connaître leur le sujet de leur passion, et là en l'occurrence les algues.
Et les premiers aquariums fabriqués à des fins scientifiques datent aussi du début du 19e siècle. Avant, ça n'existe pas. C'est vraiment à ce moment-là qu'il y a un essor pour l'attrait pour le monde sous-marin.
Et les aquariums ont aussi rejoint les salons bourgeois. C'était de très bon ton d'avoir au milieu de son salon, quand on recevait, des beaux poissons qui venaient de la mer.
Et des algues aussi.
Et des algues aussi. Hein.
Vous parlez aussi d'une photographe, Anna Atkins, qui est morte en 1871, une botaniste pionnière aussi de la photographie sous-marine. Donc il y avait déjà à cette époque-là de la photographie sous-marine, et elle a photographié beaucoup d'algues avec un procédé très particulier, particulier, le cyanotype.
Exactement. Alors c'était pas sous-marin, elle récoltait les algues et elle les mettait sur ces planches de cyanotype qui avaient une émulsion qui réagissait avec la lumière, et en fait l'algue faisait un cache et donc l'émulsion ne réagissait pas là où avait été posée l'algue. On est vraiment, il faut se repositionner dans le contexte de l'époque, on est dans une recherche de la preuve scientifique. On a longtemps eu le dessin qui était le seul moyen de donner à voir la diversité des algues, mais le dessin, il a toujours été critiqué. Est-il une vérité vraie? Est-il interprété? Quel est le niveau d'interprétation? Et donc là, à cette époque-là, on est bien vers une recherche de quelque chose de plus rigoureux, de plus reproductible que le dessin, et on passe peu à peu vers ces procédés photographiques.
Mais ces photographies étaient réalisées dans des buts scientifiques ou artistiques, puisqu'elles sont très belles aussi, hein, ces photographies, il y en a dans votre livre, hein. Donc, ou les deux?
À l'origine, on est vraiment dans une démarche scientifique. L'idée est quand même qu'il faut avoir un savoir-faire et qu'il faut donner à voir.
Mais aujourd'hui, les scientifiques comme vous, hein, quand vous allez récolter des algues, vous les photographiez évidemment, mais ensuite vous les dessinez aussi. C'est un outil quand même toujours utilisé, le dessin.
Le dessin reste un des outils scientifiques parce qu'il y a des choses qui sont sur tellement de niveaux qu'on ne peut pas les représenter de manière objective et efficace avec la photo. Néanmoins, pour ma part, j'utilise assez peu le dessin. J'utilise davantage, en fait, la mise en herbier. J'utilise les spécimens.
Parlez-nous justement de cet herbier, puisque le Muséum National d'Histoire Naturelle possède l'un ou voire le plus grand herbier du monde, avec combien de millions de spécimens?
Dans l'herbier du Muséum National d'Histoire Naturelle, on a à peu près 8 millions de spécimens et 500 000 spécimens d'algues.
Et donc, vous contribuez à enrichir encore cette collection d'algues, puisque vous partez dans le monde entier pour les récolter. Et on y reviendra, hein, vous étiez aussi à Madagascar, par exemple. Donc, comment vous faites concrètement? Vous allez chercher des algues, vous plongez, vous les ramenez, et ensuite?
Et ensuite, ces algues, pour les préserver des centaines d'années, puisqu'on a des spécimens qui datent de plusieurs siècles, 3-4 siècles, on va les étaler sur une feuille de papier, exactement comme un herbier de plantes, si ce n'est que les algues vont coller sur le papier. Donc il faut vraiment qu'on
les
fixe.
Elles collent plus sur le papier que les plantes terrestres?
Oui, on a parlé tout à l'heure des composés qu'elles ont dans leurs parois. Ces composés gélifiants sont très collants. Et en fait, elles vont adhérer, hein, de manière définitive.
Même si on la fait sécher, elle continue de coller.
C'est ça. Donc on va la faire sécher sur le papier définitif, donc des beaux papiers, et on va juste utiliser quelque chose, on va les mettre entre des papiers journaux et utiliser une petite lingette.
Oui, mais alors si elle est collée sur le papier, comment vous pouvez l'étudier ensuite, puisqu'elle est devenue inaccessible en fait, si elle est collée sur le papier de part et d'autre?
Il suffit de remettre une goutte d'eau.
Ah,
et avec une petite goutte d'eau, on peut redécouper un petit morceau et le remettre sous un microscope, refaire toutes les études que l'on veut.
Vous la décollez en rajoutant de l'eau?
C'est des algues, un peu d'eau, c'est reparti.
Même après plusieurs siècles?
Après deux, trois siècles, on met une goutte d'eau sur un morceau d'herbier, l'algue se décolle, on le découpe et on peut faire les observations au microscope.
C'est assez magique, effectivement. Hein. Partons à nouveau au fond de l'eau avec Émilie Loiseau, Le fond de l'eau.
Je voudrais être le fond de l'eau. seul endroit où l'on a pied. Si on se met du bon côté, je voudrais être le fond de l'eau. Tu voudrais que je sois bouée, mais que je sois bouée percée. On nage et qu'on n'arrive jamais au port. Qu'on nage, qu'on nage, qu'on nage et puis qu'on bouffe le clore. S'il y a que ça pour te sauver, s'il y a que ça pour te sauver.
Écoutez, autour de la question, nous sommes avec Lynn Le Gall, chercheuse au Muséum National d'Histoire Naturelle, pour son livre sur les algues, étonnant paysage. Lynn Le Gall, les algues, à quoi servent-elles? Quel est leur rôle écologique sous la mer? Sous la mer et d'ailleurs dans les rivières, puisque vous n'êtes pas spécialiste uniquement des algues maritimes, mais également de rivières.
Il y a aussi des algues d'eau douce, tout à fait.
Donc à quoi servent les algues?
De manière générale, les algues font la photosynthèse, donc elles vont capter le CO2 et produire de l'oxygène et former de la matière organique qui, elle, va rentrer dans la chaîne alimentaire.
Attendez, alors donc il y a le soleil, d'accord, au-dessus de l'eau. Sous l'eau, les algues vont capter la lumière du soleil, elles vont produire de l'oxygène. Ça, c'est la photosynthèse.
Captant le CO2 qui, lui, va s'être dissous dans l'eau.
Mais alors, cet oxygène va être libéré dans l'eau, il va servir à faire respirer tout un tas d'organismes, c'est bien cela?
Alors, plus que... oui, en partie, mais l'essentiel, c'est que les algues vont accumuler du carbone, et ce carbone va être consommé par toutes sortes d'animaux qui vont se nourrir des algues de manière directe en les broutant, ou alors quand les algues vont se décomposer, ça va rentrer dans de la matière organique dissoute.
Donc s'il n'y a pas d'algues, il n'y a pas de nourriture pour toute une faune et une flore. Finalement, une faune qui va manger les algues, les poissons, mais pas seulement les poissons, alors aussi les crustacés.
À l'image de ce qui se passe à la surface de la Terre, on a les forêts, les champs qui assurent la production primaire. Et bien sous l'eau, c'est pareil. Le premier maillon de la chaîne alimentaire sous l'eau, ce sont les algues.
Et c'est aussi un biotope dans lequel se cachent les animaux, les poissons notamment, comme on peut voir dans les films sous-marins ou les dessins animés avec ces poissons qui se cachent sous les algues. Et ça, c'est essentiel à leur survie.
Les grandes algues vont former des structures tridimensionnelles plus ou moins complexes. On a des choses très petites. On va avoir des crustacés, des mollusques qui vont se cacher. Et effectivement, des grandes forêts d'algues dans lesquelles on va pouvoir retrouver des poissons notamment, et même des mammifères marins. Les phoques adorent se cacher dans les forêts d'algues.
Ah oui, dans des grandes forêts d'algues, puisque alors là, comme vous nous le disiez, il y a des algues de plusieurs dizaines de mètres de longueur. Et alors justement, parlez-nous des algues dans le monde, puisque vous participez à des expéditions un peu partout dans le monde, notamment alors, en Papouasie, à Madagascar, la prochaine démarre la semaine prochaine en Corse. Donc est-ce qu'il y a des algues différentes selon les endroits dans le monde ?
Comme la plupart des organismes, ils vont être différents en fonction de la latitude. Plus on va être dans les zones polaires, on va avoir des organismes adaptés au froid. Et puis dans les zones tropicales, des organismes plus adaptés au chaud.
Mais il y en a partout dans le monde, des algues?
Partout, de long de toutes les côtes. Du moment qu'on a un substrat rocheux sur lequel les grandes algues vont pouvoir se fixer, on va retrouver des algues. Mais les majorités des organismes marins ont leur grand pic de diversité entre les tropiques. Ce qui va différer avec les algues, notamment les algues brunes et les algues rouges, c'est que leur diversité maximum, elle est plutôt dans la zone tempérée. C'est-à-dire que, par exemple, la Bretagne, la Méditerranée en France sont des zones où on a des très fortes diversités à l'échelle mondiale pour les algues. Pareil pour le sud de Madagascar.
Alors, parlez-nous justement de cette expédition du muséum à Madagascar. Donc là, vous avez découvert des nouvelles espèces d'algues?
Alors, sur l'expédition de Madagascar, on a récolté pas moins de 3000 spécimens d'algues qu'on a étudié en grande partie maintenant. Et évidemment, parmi toutes ces algues, il y avait des nouvelles espèces. Donc on a dû décrire à l'heure actuelle plus d'une dizaine de nouvelles espèces sur le grand sud de Madagascar.
Et ces espèces, vous avez eu le temps de les étudier de votre retour ?
Oui, ben pour pouvoir arriver à une description d'une nouvelle espèce, en fait, on est obligé de démontrer que ce n'est pas déjà une espèce qui a été décrite. Donc pour en arriver là, on est obligé de suivre tout un processus qu'on appelle la systématique, c'est le nom de notre champ disciplinaire, et qui nous oblige à trouver les caractères nouveaux pour l'espèce que l'on souhaite décrire.
Oui, mais alors au-delà de la description pure et simple, hein, à quoi ça sert ? Est-ce que ça peut servir, une fois que vous avez décrite hein, cette espèce, pour confirmer telle ou telle hypothèse ou théorie évolutive ? Qu'est-ce que vous en faites de ce résultat, de cette description ?
Notre intérêt à nous, c'est de comprendre la dynamique de la biodiversité hein, de manière très générale. Donc quand on veut mettre en place des mesures de conservation, on a besoin de connaître l'aire de distribution. Et il se trouve que jusqu'à présent, on pensait qu'on avait relativement peu d'espèces avec des très vastes aires de distribution. Et il s'avère en fait qu'on a beaucoup plus ce qu'on appelle de l'endémisme, hein, c'est-à-dire des espèces qui vont avoir des aires de distribution très modérées, très restreintes, et qu'en fait à côté on a une autre espèce. Et il n'y a plus la possibilité de se croiser. Donc on est quand même sur des entités spécifiques différentes.
Et on retrouve ça par exemple sur les côtes africaines avec des espèces très spécifiques d'une région d'Afrique de l'Ouest et qui à quelques dizaines ou centaines de kilomètres sera totalement différente d'une autre espèce.
C'est ça, mais il y avait un paradigme en milieu marin que l'eau de mer brassait tout hein, et qu'on avait assez peu cette structure géographique. Et en fait, avec les outils de la biologie moléculaire, on démontre que l'on a des zones très restreintes et des grandes barrières biogéographiques, même en milieu marin.
Alors, les algues sont parfois utilisées justement de plus en plus pour la cuisine, pour fabriquer des cosmétiques. Justement, écoutons cet extrait d'une émission de France 5, La Quotidienne, dans l'estuaire de la Rance en Bretagne.
C'est une algue de la famille des laminaires, là c'est la Lundaria, qui a pour caractéristique d'être très très riche en sels minéraux, comme la plupart des algues marines d'ailleurs, mais celle-ci a vraiment une très grande richesse en calcium, en magnésium, en potassium, et donc c'est une algue alimentaire vraiment très intéressante.
Alors Lynn Le Gall, manger des algues, c'est quelque chose que vous approuvez ou vous êtes un petit peu réticente ?
Alors, l'undaria dont on parle est une algue excellente. Elle est délicieuse. C'est d'ailleurs celle qu'on mange le plus souvent dans les soupes miso. Les petits carrés verts qui flottent sont de ces algues et c'est une algue brune, aussi bizarre qu'il puisse y paraître. C'est une algue, vraiment, tout ce qui est dit sur ses propriétés nutritives, c'est tout à fait exact. Le seul souci, c'est que ce n'est pas une algue bretonne. Hein. C'est une algue qui vient du Japon, qui a été introduite, cultivée, hein, et qui maintenant se retrouve dans le milieu naturel, hein, notamment dans la baie de Saint-Malo, de manière très, très fréquente, hein, au détriment des espèces autochtones.
C'est-à-dire, c'est devenu... Alors, on l'a importé pour la cultiver, on parle de culture également pour les algues. Hein. Et ensuite, alors cette algue, eh bien, ses spores, ses graines se sont diffusées, ses spores se sont diffusées dans le milieu et elle est devenue invasive d'une certaine façon. C'est développée au-delà des champs sous-marins dans lesquels elle était confinée.
La définition de l'invasion en biologie est quelque chose de très normé. Donc on ne parle pas forcément d'invasion. Mais en tout cas, on est bien sur une algue qui prend de plus en plus de place dans le milieu naturel.
Mais en quoi c'est gênant, puisque vous dites au détriment des algues qui étaient là avant elle. Donc c'est-à-dire qu'une algue, ce n'est pas comme un animal qui va en manger un autre. Elle est là, elle s'installe.
Il y a de fortes compétitions parmi les algues. Pas de la prédation, mais c'est une grande compétition pour l'espace. On a bien dit, les algues n'arrivent pas à pousser très profond. Donc elles vont pousser entre la les grandes marées, hein, la, et puis une vingtaine, trentaine de mètres quand on parle de la Manche. Donc la pression pour l'espace, elle est absolument terrible. Et il se trouve qu'en Manche, on est des champs de laminaires autochtones. Hein, de,
autochtones, non, qui étaient là avant celles qu'on a importées.
Et que ces champs de laminaires sont déjà bien mis à mal par le changement climatique. Hein. C'est des algues qui préfèrent les eaux froides, et là, les eaux
deviennent chaudes. On y reviendra sur le changement climatique, mais justement sur ces algues de culture. Donc ce qui veut dire, c'est que si une algue de culture ensuite ben voilà, se déplace, ses spores se déplacent, elle va s'installer, et l'algue autochtone qui était là avant n'a plus de place d'une certaine façon. Donc son terrain est occupé.
Exactement. Et donc, il y a une lutte pour l'habitat.
Oui, et donc c'est pas le fait de manger des algues que vous contestez d'une certaine façon, c'est le fait d'en importer et d'en cultiver des algues qui n'étaient pas là au départ.
En dehors de leurs aires d'origine, oui.
En dehors de leurs aires d'origine. Et puis, si on veut donc développer cette commercialisation des algues, il faut forcément passer par une culture. On ne va pas prendre les algues naturelles dans leur milieu qui sont simplement là.
Alors, pour les laminaires bretonnes, on a des techniques de cueillette des laminaires bretonnes, avec notamment un outil extraordinaire qu'on appelle le Scooby-Doo, qui est un grand tire-bouchon que l'on déploie et qui les algues vont s'enrouler autour, et ça va permettre de les arracher. Et puis plus récemment, on a déployé un nouvel outil, le peigne norvégien, qui vient racler le fond et cueillir des algues. Donc on a des moyens de cueillir nos algues autochtones, mais ça aussi, ça chamboule pas mal les environnements.
Et de toute façon, manger trop d'algues ne serait pas bon pour la santé.
Les algues sont très riches en iode, et très vite on sature notre besoin quotidien en iode. Et l'autre chose, c'est qu'on n'est pas habitué, nous, à manger des algues. Et comme je l'ai dit, dans leurs parois, il y a des composés qui sont très difficiles pour nous à digérer, ce qui fait qu'on ne retire que peu de ces nutriments extraordinaires qu'elles contiennent. On a assez de mal à y accéder.
Mais manger, ingérer trop d'iode, c'est mauvais pour la santé aussi, puisque cela peut provoquer notamment des cancers de la thyroïde, ce genre de choses.
Sans doute, ouais.
Oui, donc voilà, donc ça ne serait pas bon de toute façon de manger trop d'algues. Et alors les algues aussi peuvent poser d'autres problèmes, puisqu'il y a des endroits où elles prolifèrent. Et même si on aime beaucoup les algues, les proliférations d'algues peuvent être contestables et pour l'environnement, et aussi rebutantes pour les touristes. Et écoutons cet extrait. Alors, ça se passe en Guadeloupe. Les sargasses sont des algues qui prolifèrent.
Le long des côtes de la Désirade, la mer est toujours bleu lagon, mais encore faut-il enlever l'épaisse couche de sargasses pour le remarquer. Et il n'y a pas que la vue qui est gâchée, car en pourrissant sur la plage, le sulfure d'hydrogène que ces algues relâchent dégage une odeur d'œuf pourri. Thierry Thibault est chercheur à l'Institut méditerranéen d'océanologie et spécialiste des algues brunes.
Aux Antilles, ça a commencé vraiment en 2011. Là, il y a eu de très gros échouages, mais ce n'est pas un phénomène récurrent. Donc, il y a eu en 2011, 2012, 2013, 2014, il n'y a rien eu. 2015, il y a eu énormément d'échouages. 2016, il n'y a rien eu. Et 2017, il y en a.
En juin dernier, le chercheur a mené une expédition scientifique vers les Antilles en partant de la Guyane française. Son constat est sans appel.
Entre le nord du Brésil et la Guadeloupe, l'océan est rempli de sargasses.
Quant aux raisons de leur présence, le mystère reste entier.
C'était un extrait d'un reportage d'Alice Posicki sur RFI. Lynn Le Gall, d'abord, parlez-nous de ces sargasses. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Donc les sargasses sont des algues brunes qui ont la particularité de ne pas toujours vivre fixées au fond. C'est-à-dire qu'elles peuvent vivre en formant des radeaux sans être fixées au fond. Et donc elles ont donné notamment leur nom à la mer des sargasses.
Ah, c'est de là que ça vient, parce qu'il y en a beaucoup là-bas.
Exactement. Et historiquement, c'était vraiment autour de la mer des sargasses.
Donc elles flottent, ces algues, en fait.
Elles forment des radeaux. Elles forment des vrais radeaux qui dérivent au gré des courants. Et donc là, ce qu'on imagine, c'est que les radeaux qui étaient autrefois sur la mer des sargasses se trouvent à l'heure actuelle au large du Brésil. Et que l'arc antillais forme un peigne. Et que quand elles dérivent, eh bien, comme des dents d'un peigne, les îles de l'arc antillais viennent récupérer des échouages massifs d'algues.
Et ça pose des problèmes, alors c'est vrai pour le tourisme, hein, puisque si on veut se baigner sur une plage paradisiaque et qu'on a des kilomètres d'algues, ça peut être gênant.
De santé publique pour les locaux. Hein, c'est quand les algues pourrissent, comme toute matière organique qui se décompose, ça produit de l'hydrogène sulfuré, et c'est des produit profondément nocif.
Oui, alors justement, on y reviendra. Mais auparavant, ces proliférations d'algues, on peut les trouver un peu partout dans le monde, mais elles sont dues à quoi ? On parle alors de pollution aussi par des produits chimiques qui peuvent favoriser cette prolifération.
Les algues, on l'a dit, c'est comme des plantes. Donc, ce qui limite leur croissance généralement, c'est les composés azotés, le phosphore, etc. Composés sont amenés dans le milieu d'une manière ou d'une autre, eh bien, notamment s'il y a des engrais qui arrivent dans le milieu, les algues, c'est la seule chose qu'elles attendent pour se développer.
Oui, alors il y a les phosphates qui sont alors des produits chimiques utilisés en agriculture et qui sont déposés, en fait, qui sont stockés dans les fonds sous-marins. Les nitrates aussi, produits par les cultures, les élevages, qui s'infiltrent dans le sol et qui, s'il y a du soleil d'ailleurs, peuvent justement favoriser le développement des algues, des proliférations. Donc, et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ?
Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. En fait, les algues, en se développant, viennent repomper cette matière, ce phosphore et ce nitrate qui étaient captés jusqu'à présent dans les vases. Donc, le problème, c'est leur échouage qui pose de vrais problèmes logistiques et d'utilisation. On ne sait pas utiliser et valoriser cette matière organique.
Alors, vous parliez justement des problèmes pour la santé publique. Parfois, écoutons cet extrait justement d'un reportage qui nous parle d'un cheval mort sur les côtes bretonnes.
C'était le 28 juillet 2009. Vincent Petit se promenait sur la plage avec son cheval quand, en longeant un ruisseau, ils se sont enlisés. En quelques secondes, Vincent a vu l'animal périr et a perdu connaissance. Ce jour-là, la plage était couverte d'algues vertes. En se décomposant, elles produisent de l'hydrogène sulfuré, un gaz mortel que l'on a retrouvé dans le sang et les poumons du cheval.
Donc, Lynn Le Gall, que se passe-t-il exactement dans ce cas-là ? Donc, les algues pourrissent, peuvent produire des produits chimiques comme de l'hydrogène sulfuré, de l'ammoniac.
Exactement, ça c'est lié aux protéines qu'il y a dans les algues. Et le problème c'est que là, le gaz devient inodore et il est mortel.
Ah, il est inodore.
Il est inodore. Le premier est très odorant. Il sent l'œuf pourri, donc celui-là...
L'hydrogène sulfuré. Donc les algues pourrissent, elles produisent de l'hydrogène sulfuré qui sent l'œuf pourri, donc là, c'est un indicateur. Mais l'ammoniac, lui, est inodore et il est très toxique.
Exactement.
Mais quand on est, alors, comment ça marche ? Puisque ces algues, quand on est sous l'eau, en leur compagnie, il n'y a pas...
Pas de souci, il n'y a pas d'amoncellement et il n'y a pas de pourrissage, en fait. Le problème vient de l'accumulation et de la dégradation de ces algues par des bactéries à l'air libre.
À l'air libre seulement, c'est-à-dire, en quelque sorte, les algues ne sont pas toxiques sous l'eau, mais à l'extérieur, sur les plages, quand elles s'accumulent, qu'elles pourrissent. Et là, s'il y a... souvent des croûtes, comme ça, on peut marcher dessus.
Alors, ces croûtes, quand on n'en a que sur un mètre et une dizaine de centimètres d'épaisseur, on est sur quelque chose de tout à fait normal. Et là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Au contraire, ça vient amender le haut de plage dans lequel on va trouver toute une diversité.
Oui, mais alors justement, si on comprend bien, vous ne prenez pas de précautions particulières quand vous allez plonger, c'est pas la peine. Mais quand vous allez ramasser aussi des algues sur la plage ou sur les rochers ?
Il n'y a aucun problème. Tant que les algues sont vivantes et qu'elles sont juste découvertes par la marée basse, il n'y a aucun problème. Encore une fois, le problème ne survient que quand il y a une décomposition. C'est-à-dire que quand on a eu un amoncellement important, c'est à peu près plus de 50 cm pour que les réactions chimiques se mettent en place. Donc quand vous enfoncez dans plus de 50 cm d'algues, faites demi-tour. Tant qu'il y en a moins de ça, il n'y a aucun problème pour y aller. Vous pouvez aller gambader sur la plage sans aucun souci.
D'accord. Donc n'ayons pas peur des algues, mais c'est quand même bon à savoir, ne pas camper par exemple sur un tapis d'algues en se disant que c'est doux comme une mousse, ça peut être très toxique. Parlons des dangers qui pèsent sur les algues justement menacées par le réchauffement climatique, elles aussi comme beaucoup d'espèces.
Et puis les algues n'ont pas une capacité de dispersion importante, il n'y a pas de mobilité et on a parlé des spores, les spores ne vont pas se disséminer aussi bien que les graines chez les plantes à fleurs.
Si elles partent dans la mer, elles vont très loin.
Pas forcément. On est plutôt sur des dispersions à très courte échelle, ce qui fait que la capacité de changer d'espace est très limitée pour les algues. Et donc elles sont particulièrement sensibles au réchauffement climatique.
Mais alors quels sont les dangers précisément alors dues au réchauffement climatique qui vont menacer les algues?
Déjà, leur cycle de reproduction ne se fait que dans une gamme de températures. Et j'évoquais tout à l'heure le cas des laminaires sur les côtes bretonnes. On arrive à la température maximale.
Les laminaires, ce sont des grandes algues.
Les plus grandes algues qu'on va voir sur les côtes bretonnes. On arrive sur une température actuellement qui est supérieure à la température à laquelle peut se faire la reproduction. Donc ça, c'est un premier point.
Donc il fait trop chaud pour elles. Les mers deviennent trop chaudes pour certaines espèces.
Pour qu'elles puissent faire leur sexualité. Il y en a d'autres où ça devient trop chaud pour qu'elles puissent juste exister, pour qu'elles puisse croître. Et il se trouve que le réchauffement climatique est le plus sensible dans les zones tempérées. Et je vous ai dit tout à l'heure que ce sont les zones où on a les plus grandes diversités d'algues à l'heure actuelle. Donc on a un vrai péril pour ces organismes-là.
Et il y a aussi l'acidification des océans. Alors qu'est-ce que c'est exactement? De quoi s'agit-il?
Alors il se trouve qu'on brûle depuis très longtemps nos énergies fossiles, charbon, pétrole, que le CO2 est donc disséminé dans l'atmosphère et ce CO2 va se dissoudre dans l'eau. Et en se dissolvant dans l'eau, il va se transformer en carbonate, bicarbonate. Et il va avoir de moins en moins de... ça va acidifier l'océan.
Oui, et donc alors les algues ne supportent pas ce milieu trop acide pour elles.
Alors on a un certain nombre d'algues qui vont être calcifiées. Et pour ces organismes calcifiés, c'est vrai pour les algues, c'est vrai pour les mollusques, les escargots qui ont des coquilles, etc. Et les coraux sont très très impactés par l'acidification de l'océan, qui est un phénomène majeur qui a lieu à l'heure actuelle.
Et aussi dans votre livre, vous parlez de l'érosion des côtes qui génère une augmentation des particules en suspension. Et ça aussi, cela nuit aux algues.
Oui, parce que toutes les particules vont refléter la lumière et donc on va avoir de moins en moins de lumière disponible, notamment en profondeur. Et ça va limiter la capacité de photosynthèse des algues. Et puis après, le substrat va être recouvert d'une couche de sédiments qui va empêcher les petites algues de se fixer, de se développer.
Mais est-ce qu'on a déjà observé des disparitions d'espèces d'algues ou des algues menacées vraiment concrètement, ou est-ce que c'est une hypothèse à long terme?
Alors on sait qu'on a des espèces qui sont fortement menacées, notamment les cystozoaires en Méditerranée, mais les algues n'ont pas fait l'objet d'une étude aussi poussée que ne le font les plantes à fleurs. Donc on a assez peu d'algues listées parmi les espèces menacées, et ça je pense qu'il va vraiment falloir qu'on s'attelle à cette tâche de porter davantage d'attention à ces organismes qui ont une menace forte sur elles à l'heure actuelle.
Oui, et c'est un habitat pour beaucoup d'espèces, c'est un petit peu comme, on peut faire le parallèle, comme si une forêt, la forêt amazonienne disparaissait d'une certaine façon, une disparition de forêt d'algues.
C'est vraiment un parallèle complet, c'est-à-dire que si les algues disparaissent, les grandes algues telles que les laminaires disparaissent, toute la faune associée, tout l'écosystème associé va être chamboulé par ça.
Et est-ce qu'on observe aussi le même phénomène dans les rivières ?
Alors oui, on a de forts réchauffements dans de nombreuses rivières. Il y a moins d'algues toutefois dans les rivières. On a quand même beaucoup de plantes aquatiques dans les rivières. Et il se trouve qu'elles sont adaptées à des variations de température plus importantes que ne le sont les algues, puisque l'eau de mer ayant une grande masse, c'est plus tamponné.
Oui, donc c'est un milieu menacé et auquel effectivement on pense rarement.
On prête peu d'attention.
On prête peu d'attention. Donc... Lynn Le Gall, merci. Je rappelle le titre de votre livre, Algues étonnant paysage, aux éditions de Lachaud et Niestlé, avec Denis Lamy pour cette magnifique promenade dans le monde des algues. Merci.
Pour nous contacter, autour de la question, @rfi.fr.
C'était Autour de la question avec Hugo Violas à la réalisation et Juliette Brault en coulisses. Portez-vous bien, merci de votre fidélité. Demain, nous parlerons de préhistoire et dans quelques instants, les infos sur RFI.